Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre rendez-vous qui décrypte la com, la pub et les médias sur BFM Business. Au programme du jour, on peut souhaiter une bonne fête à la radio puisque c'est le média qui est célébré pendant deux jours à l'initiative de l'Arcom. Hervé Gautreau, membre du collège de l'Arcom et président du groupe de travail radio et audio numérique, est notre invité en première partie d'émission. L'estimation de la croissance mondiale publicitaire a été réalisée par Groupe M et Julien Casqui nous en dira plus dans son journal. Et puis pour finir, on va parler du financement de l'audiovisuel public, holding, suppression de la pub après 20h. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme, Hebdo.com, c'est parti.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité média.
En plateau avec nous, évidemment, Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Rebecca.
Et ce jeudi et ce vendredi, nous célébrons le média préféré des Françaises et des Français, la radio, puisque c'est tout simplement la fête de la radio pour la troisième année consécutive, organisée à l'initiative de l'Arcom, ex-CSA. Et notre invité aujourd'hui, c'est Hervé Gautreau. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du collège de l'Arcom et vous y présidez le groupe de travail radio et audio numérique. Alors, au programme de ces deux jours, portes ouvertes, expos, émissions spéciales, concerts pour mettre en avant la radio et ceux qui la font vivre. Hervé Gautreau, pourquoi organiser une fête de la radio et qu'attendez-vous de cette fête?
En fait, la vraie question, c'était pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu de fête de la radio avant? Parce que, enfin, vous venez de le dire, c'est le média préféré des Français. La radio est partout dans notre vie. C'est 40 millions de personnes qui l'écoutent tous les jours, presque 2h40. Et puis, voilà, enfin, on se regarde nous-mêmes en train d'écouter la radio. En prenant le café le matin, en se rasant, en allant travailler, en étant en voiture, en étant au travail, en étant dans les magasins. Et en fait, peut-être que justement, à force d'avoir la radio tout le temps dans notre paysage, on finit par oublier que c'est un média et que on la voit plus à force de la voir, quoi. Et donc faire la fête de la radio, c'est ça, c'est se donner deux jours pendant lesquels, d'un côté, les radios vont faire découvrir des aspects du média que les gens ne connaissent pas forcément, d'où la possibilité pour certaines radios de faire visiter leur studio ou de se délocaliser en allant en extérieur ou d'organiser des concerts, d'organiser des manifestations. Et puis pour les auditeurs, c'est aussi l'occasion de se manifester auprès des radios et de dire combien ils les aiment sur les réseaux sociaux, par exemple.
Et vous me disiez que la fête bat son plein. Est-ce qu'elle marche mieux que l'année dernière ou l'année d'avant?
Oui, j'ai l'impression qu'elle marche mieux. Alors, la toute première année, c'était les 100 ans de la radio, c'était les 40 ans de la libération de la bande FM, c'était la première fête, donc ça avait été très spectaculaire. L'année dernière, on était en plein pendant les élections, donc peut-être que tout le monde avait un petit peu la tête ailleurs. Et là, cette année, on sent que, à nouveau, c'est vraiment reparti très fort, les radios sont très mobilisées. Là, juste avant de venir, je regardais sur les réseaux sociaux, on voit que les gens, il y a des débats qui s'organisent
à
l'occasion de la fête de la radio, et qui s'organisent entre les gens sur la radio, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas, donc c'est vraiment très 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 satisfaisant. Ouais.
Et alors, c'est le DAB+ qui est mis à l'honneur cette année. D'ailleurs, est-ce qu'on dit DAB+ ou DAB+?
On dit comme on veut.
On dit comment on veut. Alors, DAB+, pour moi, le Digital Audio Broadcasting Plus, et il passera d'ailleurs le cap symbolique d'une couverture de 50% de la population sur l'Hexagone cet été. Est-ce que déjà vous pouvez rappeler ce que c'est que...
Oui, parce que là, dit comme ça, je pense que les gens...
Alors, après, on est sur BFM Business, mais quand
même. Non, mais c'est sûr, vous avez tout à fait raison. Le DAB+, c'est la radio numérique terrestre. C'est comme la TNT pour la télévision, mais c'est la même chose pour la radio, c'est-à-dire que toujours avec un poste de radio, alors équipé d'une puce DAB, c'est pas les postes. Enfin, il faut changer son poste de radio, en fait, mais on en trouve dans le commerce
pour
pas cher. Non, pas beaucoup plus. Honnêtement, on trouve aussi des entrées de gamme en DAB+. Ah, et c'est peut-être quelques euros de plus, mais honnêtement, non, on trouve des choses tout à fait acceptables. Et puis, quand on achète une voiture neuve aujourd'hui ou qu'on a une voiture récente, c'est sûr qu'il y a une puce DAB dans l'autoradio. Et donc, on reçoit la radio sur sa radio, sur son poste de radio normal, avec l'antenne, et pas en passant par Internet, mais à la place de la FM avec un son analogique, eh ben, on a un son de qualité numérique, en qualité, comme si on écoutait un CD ou comme si on était sur une plateforme de streaming. On n'a plus d'interférences, on n'a plus de grésillement, on n'a plus besoin de chercher la fréquence parce qu'il suffit de sélectionner sur un petit écran alphanumérique le nom de la station qu'on veut écouter. Donc c'est vraiment c'est le meilleur des deux mondes, à la fois de la FM et du hertzien et du numérique.
Et aussi parce qu'il me semble que c'est plus écologique.
Et alors justement, c'est plus écologique, c'est bien de le rappeler par
pourquoi
les temps qui courent. Bah parce qu'en fait, alors, on va pas rentrer trop dans la technique, mais la spécificité du DAB+, c'est qu'au lieu d'avoir une fréquence pour une radio, on a une fréquence pour 13 radios. D'accord. Qui sont encoquillées dans un seul et même signal numérique. Donc forcément, on consomme beaucoup moins d'énergie pour diffuser, et donc c'est mieux pour l'empreinte environnementale.
Pour se rendre compte concrètement, vous avez un chiffre de compensation
J'ai pas le chiffre en tête, mais on sait que c'est nettement mieux que l'AFM et que l'écoute sur Internet. La BBC a fait cette étude il y a pas très longtemps, et je crois que chez nous, l'ADEME s'est penchée sur la question aussi.
Est-ce que je peux être un peu cruel sur le DAB? Parce que il se trouve que je suis un assez vieux journaliste et que j'ai l'impression d'entendre parler du DAB depuis que j'ai commencé ce métier, ou presque. Et qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, ça décollerait enfin, quoi?
Bah, ça décolle enfin. Alors, c'est vrai, vous avez raison. Le DAB+ a véritablement démarré en France en 2014. Donc, ça fait quand même 9 ans.
Ouais.
Et on a attendu. Et c'est vrai que, honnêtement, ça a eu du mal à démarrer parce que je pense qu'il y avait quelques grands éditeurs qui n'étaient pas absolument convaincus du bien fondé de cette nouvelle technologie. Et puis, ça y est, on va dire que chacun a fait sa petite révolution. Ils s'y sont mis. Il y a eu un événement qui a été très important en 2021, le 12 octobre. On a lancé les antennes nationales du DAB+. Oui. Sur lesquels sont montées toutes les grandes stations, RTL, Europe 1, France Inter, France Info, etc. Skyrock, Énergie, enfin plein d'autres. Il y en a 26 au total, je ne vais pas toutes vous les citer.
Et techniquement, ça a tout de suite bien fonctionné?
Non, c'est surtout que les grands éditeurs se sont dit, bon, maintenant qu'on a investi dans cette technologie, il faut que ça marche, donc on y va. Et donc, on se donne les moyens. Et c'est ça qui change quand même pas mal de choses. Et puis, à côté de ça, l'ARCOM déploie énormément d'allotissements de zones de diffusion du DAB+, de manière locale à l'échelle d'une ville, par exemple, de manière étendue à l'échelle d'un département ou d'une région. Et donc, tout s'accumuler fait qu'effectivement, aujourd'hui, c'est la nouveauté de cette fête de la radio, c'est qu'on peut annoncer qu'un Français sur deux est en capacité de recevoir le DAB+ là où il est. On
Mais
va
y en a
se déployer
en... Pardon. Il y en a combien qui les reçoivent vraiment, enfin qui s'en servent?
Un sur deux. Ah, qui s'en servent vraiment. Ça, on n'en sait rien parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de mesures d'audience fiables. Donc, on est un peu dans le doigt mouillé. C'est difficile de se faire une idée.
C'est le début.
Voilà. Mais d'ici la fin de l'année, début 2024, on devrait dépasser les 60%. Donc, on se déploie très vite. Initialement, on devait être à 40% en 2023. Donc, on avance assez rapidement. La question suivante, c'est l'équipement. C'est-à-dire qu'il faut que les Français, évidemment, achètent des postes. Et pour qu'ils achètent, il faut qu'ils sachent que le DAB+ existe. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Et donc, on va avoir d'ailleurs une campagne de promotion du DAB+ à l'automne, organisée par les éditeurs pour faire connaître cette technologie aux Français. Mmh. Et puis, c'est bien que je sois avec vous aujourd'hui.
Pour en parler. Aujourd'hui, la consommation de l'audio se transforme aussi, puisqu'on parle beaucoup de la transformation de la consommation de la vidéo dans l'émission, mais l'audio aussi avec les podcasts, la radio à la demande, la radio en replay. Et pourtant, avec tout ça, c'est 80% d'écoute en direct encore. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui attache les auditeurs au direct à la radio?
C'est les contenus, c'est une éditorialisation, c'est la présence humaine. C'est vrai que si vous allez écouter des plateformes de streaming musical, c'est super. Moi aussi, je suis abonné à une plateforme de streaming musical comme plein de Français. Mais c'est quand même pas la même chose quand vous vous mettez sur la radio, que vous entendez une voix, qu'il y a quelqu'un qui vous parle, que ça se passe en direct, que vous savez qu'au moment où vous écoutez la personne, elle est actuellement effectivement derrière un micro en train de vous parler.
Il y a la même chose pour la télé. Et en plus, on les voit.
Oui, mais la radio, ce que je disais, c'est un média de l'intime qui nous accompagne partout. Et qui nous accompagne d'autant plus facilement que justement on n'a pas besoin d'avoir les yeux rivés sur un écran, donc on peut faire des tas de choses en même temps, et c'est ce qu'on fait. Et du coup, la radio est vraiment chez nous et elle fait travailler aussi notre imagination. En fait, c'est un avantage de ne pas avoir l'image, je pense, pour la radio. Et puis, on a tous des histoires de radio, des souvenirs de radio qui remontent souvent à l'enfance. Donc il y a cet enthousiasme et puis cette confiance aussi, parce qu'on sait que c'est le média dans lequel les Français ont le plus confiance. Hein, tous les ans, il y a l'apparition du baromètre de la confiance dans les médias, de la Croix. Et c'est toujours la radio qui arrive en tête pour la confiance. Et ce n'est pas un hasard. Ça ne veut pas dire que la télé, c'est mal. Je fais 30 ans de télévision. Mais on sent qu'il y a une intimité dans la relation des auditeurs avec la radio.
D'ailleurs, la radio est aussi le seul média pour lequel le marché pub était en hausse en 2022 de 1,2%, alors que le reste était en baisse de 3% environ. Qu'est-ce qui intéresse les annonceurs? Est-ce que c'est cette confiance, justement, ou est-ce que c'est les radios locales avec la proximité, les radios nationales?
Alors c'est tout ça à la fois plus l'agilité, c'est-à-dire que la radio a une bonne partie de son marché publicitaire qui réside dans les offres promotionnelles dans la grande distribution, ce qui est interdit d'ailleurs à la télévision par exemple. Et donc un matin vous avez une promotion sur des poireaux ou sur des pêches et vous savez que c'est à temps dans tel magasin, etc. Et le lendemain ça va être autre chose. Et il y a cette espèce de réactivité de la radio qui intéresse les annonceurs et qui en même temps touche énormément de gens d'un seul coup. Voilà.
Et pourtant la pub radio est quand même pas la plus sophistiquée qui soit, on va dire.
Ah non, elle fonctionne en efficacité, oui, ça c'est sûr. C'est pas toujours heureux, c'est d'accord, mais c'est efficace en tout cas.
Aujourd'hui, la radio est écoutée par 40 millions de personnes tous les jours pendant 2h37. Quels sont les principaux défis pour maintenir cette audience et cette croissance du marché publicitaire là pour 2023?
Alors les défis, ils sont nombreux, ils sont plusieurs. On va dire que la radio, comme tous les médias dits traditionnels, même si j'aime pas beaucoup le terme, ça fait un peu vieillot, ce qui est pas du tout le cas. La radio est sous la pression de la concurrence du numérique, évidemment, en termes d'audience, en termes d'usage, en termes de marché publicitaire aussi, et donc elle doit faire face à ces défis. Et
pour y faire face, comment savoir si elle va bien ou si elle va mal en fait là?
Elle va bien, mais elle est. Certains sont inquiets, d'autres sont vigilants, on va dire. Mais tout le monde sait qu'il y a des échéances et qu'il ne faut pas se laisser surprendre, que donc il faut être dans le match d'un point de vue technologique. On vient de parler du DAB+, mais c'est aussi effectivement l'apprentissage de la radio à la demande avec les podcasts et la délinéarisation des contenus. Il y a les enjeux liés aux contenus eux-mêmes, c'est-à-dire comment faire aujourd'hui pour que quelqu'un qui a une heure devant lui se dit, tiens, plutôt que d'aller écouter de la musique sur une plateforme de streaming ou même d'aller regarder une série sur Netflix, je vais allumer la radio pour écouter ce qui se passe.
Ça permet de découvrir aussi des nouveaux...
Voilà, donc il faut aussi se réinventer de ce côté-là. Et puis, d'un point de vue économique, oui, les marchés publicitaires vont un petit peu mieux. C'est vrai à l'échelle nationale, c'est un peu moins vrai selon les territoires sur les marchés locaux. Et on voit bien que le marché publicitaire se fait un peu grignoter effectivement par d'autres entrants. Et qu'il va falloir que la radio réfléchisse aussi à peut-être une autre manière de créer de la valeur avec le numérique par exemple ou en s'adressant à des entreprises. Enfin, il va falloir inventer. Et je pense que la radio est face à tous ces défis. Il ne faut pas oublier quand même que c'est un média qui existe depuis plus de 100 ans, qui s'est toujours adapté au fil du temps à ces évolutions technologiques, et elle va s'adapter à cette nouvelle donne comme elle s'est adaptée aux autres.
Pour terminer cette interview, on accueille Julien Casquier, notre journaliste BFM Business, qui va vous faire un petit questionnaire en rafale, 10 questions, 2 minutes, avec un chrono, voilà.
Je m'accroche. Allons-y.
On lance le chrono, c'est parti.
Allez, première question, Hervé Gocho. Le matin, quelle radio écoutez-vous?
Alors moi, j'ai des vieilles habitudes de journaliste que j'ai été pendant 30 ans et je fais le tour des matinales, j'en écoute plusieurs. Beaucoup, en fait.
Le média radio en trois mots.
La résilience, l'intimité et la proximité, qui n'est pas tout à fait la même chose que l'intimité.
Ce que la radio a, que n'a pas la télé.
Elle n'a pas l'image. On vient d'en parler, hein, c'est-à-dire que justement, ça crée une intimité que la télé ne crée pas.
L'avenir de la radio, c'est le podcast ou pas?
Oui, entre autres, absolument, oui.
Trois ingrédients pour faire une bonne émission de radio.
De la bonne humeur, du sérieux, un troisième ingrédient, la qualité du son.
La voix de la radio qui vous a marqué dans votre vie?
Il y en a plusieurs, j'hésite entre Jacques Chancel, Pierre Bellemare. C'est des voix qui ont marqué mon enfance, donc voilà, j'en ai gardé ce souvenir-là. Il y a des très belles voix aussi aujourd'hui.
Plutôt Philippe Bouvard ou Laurent Ruquier?
Tous
les deux ont animé les...
Les deux, bon, les deux, ouais.
Si vous étiez une émission de radio, ce serait laquelle?
Ce serait une émission qui n'existe plus, que je regrette et que j'aimais énormément. C'était le Tribunal des flagrants délires, qui était quelque chose d'extrêmement drôle et d'extrêmement intelligent. Non pas que je me considère comme extrêmement drôle et extrêmement intelligent, mais j'aimerais bien.
Est-ce que la radio doit être filmée?
Oui, parce que c'est les usages un petit peu normaux. Il y a un certain nombre de radios qui se font suivre sur Internet en live stream. Mais je préfère l'écouter que la regarder.
Et puis pour terminer, est-ce qu'il y a une question pendant cette interview qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose?
Oui, peut-être. Comment est-ce que justement l'ARCOM, le régulateur, fait pour accompagner cette mutation
du secteur? Le livre blanc, on n'a pas eu le temps d'en parler rapidement.
Et alors effectivement, on est engagé dans la rédaction d'un livre blanc. Bon, déjà, on accompagne le secteur au quotidien. Moi, c'est mon métier tous les jours. Et on est lancé dans la rédaction d'un livre blanc de la radio auquel on associe tous les acteurs du secteur et aussi des acteurs de secteurs connexes, comme par exemple les constructeurs automobiles sur la place du son dans la voiture.
Pour, c'est vraiment pour accompagner cette transformation du FM vers le DAB+.
Oui. De la FM vers le DAB+, et se poser avec eux les questions de quels sont en fait les jalons nécessaires pour trouver ce chemin qui va emmener justement la radio vers cette mutation technologique et vers le succès.
Merci Hervé Gaucho d'avoir été avec nous. Vous êtes membre du Collège de l'ARCOM et vous y présidez le groupe de travail radio et audio numérique. C'est parti pour le journal de Julien Kaski.
Merci.
BFM Business, Hebdo.com. Le JT de la com.
Et on commence par les investissements publicitaires mondiaux qui devraient croître en 2023.
Et oui, de 6% selon les dernières prévisions de Groupe M, l'agence média de WPP. Des prévisions qui confirment dans l'ensemble, c'est publié en décembre dernier. L'étude porte sur 62 pays et sur tous les supports. Dans le détail, la croissance du digital sera ralentie en 2023. L'audience de la télé linéaire continuera à décliner, mais l'affichage devrait poursuivre sa bonne remontée portée par un rebond en Chine. En France, Groupe M prévoit une hausse de plus de 4% du marché publicitaire, avec un fort dynamisme au deuxième semestre dû à la fin de la crise sociale et à une baisse de l'inflation.
La Commission européenne menace de démanteler Google.
Elle vient de déposer une plainte pour abus de position dominante sur son activité de pub en ligne. Google est accusé de privilégier ses propres outils publicitaires, en l'occurrence sa plateforme de bourse d'annonces publicitaires Adix, au détriment de ses concurrents. La Commission européenne pourrait forcer Google à vendre une partie de ses activités de pub en ligne s'il ne cessait pas ce comportement. Des négociations vont commencer dans les prochaines semaines entre Bruxelles et le géant américain. Voilà, ça va commencer dans les prochaines semaines.
Ce serait une première. Netflix pourrait diffuser des événements sportifs en direct.
Et il commencerait par du golf. Selon le Wall Street Journal, Netflix réfléchit à organiser et à diffuser cet automne un tournoi de golf qui réunirait à Las Vegas des pilotes de Formule 1 et des golfeurs professionnels. Plus précisément avec des stars de sa série sur la Formule 1 Drive to Survive et de Full Swing sur la saison de golf 2022. Netflix se passerait ainsi d'acquérir les droits exorbitants d'une compétition sportive officielle tout en retransmettant un programme sportif.
Et en parlant de droits télé, France Télé et M6 ont trouvé un accord pour diffuser les matchs de l'équipe de France de foot féminine.
Omnicom se lance en France dans le retail média, soit la monétisation de la pub en ligne sur les sites de e-commerce. Omnicom ouvre un bureau à Paris de sa filiale Transact dédiée à cette activité et déjà présent dans une vingtaine de pays. Cette nouvelle structure réunira 20 experts qui interviendront de manière transversale pour toutes les agences du groupe.
Les recettes publicitaires du retail média pourraient dépasser celles de la télé d'ici environ 5 ans selon Groupe M. Et comme chaque semaine, on finit ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdo.com de la semaine. Et cette semaine, on a choisi encore celle de Burger King.
Encore, effectivement, à l'occasion de l'annonce de son partenariat avec le chef Michel Sarran. Un partenariat qui a commencé ce mardi et qui se terminera dans un mois et demi. Pour cette première collaboration, l'ancien juré de Top Chef a créé 3 burgers inédits pour la chaîne de fast-food, des burgers qualitatifs, comme il l'affirme, pour cette campagne humoristique. Burger King surfe sur le décalage entre la réputation exigeante des chefs étoilés et la restauration rapide et mise sur l'autodérision de Michel Saran. On écoute et on regarde.
Et on n'oublie pas la sauce olive. Vous avez fait le brief avec le maître d'hôtel.
Quel maître d'hôtel?
Sur le chèvre, la roquette, c'est à la pince.
Pince.
Ok, Michel.
Non, ici c'est chef, oui chef.
Oui chef.
Ok. Michel, ça en fout, hein.
Toi, ton col, faut le faire repasser.
Ouais.
Le bench, je le veux toaster 16 secondes, pas 15.
Oui chef.
Je veux de l'émotion dans les assiettes.
Ouais, ouais chef. 15 assiettes, ouais. Wesh.
Heureusement que les masters du chef Michel Saran ne restent que jusqu'au 31 juillet.
Burger King.
Et une campagne qui sera déclinée en télé, en affichage et sur tous les réseaux sociaux est conçue par l'agence historique de Burger King, un certain Buzzman.
Qu'on ne connaît pas du tout, dont on parle jamais dans l'émission.
Jamais.
Merci Julien pour le journal, c'est parti pour le Focus.com.
BFM Business, Hebdo.com, le Focus.com.
Cette semaine est entrée en séance une proposition de loi qui pourrait chambouler l'audiovisuel public et son financement. Au programme, création d'une holding qui rassemble France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA et un plafonnement pour la publicité de ce système de parrainage après 20h. Pour rappel, la pub a été supprimée sur les chaînes publiques après 20h en 2009 et c'est pour compenser cette perte que le système de parrainage a été instauré. On a donc voulu se demander cette semaine ce que préfèrent les Français. Parrainage, pas de parrainage, limitation du parrainage et est-ce que ces modifications auraient des conséquences sur la qualité des programmes? Réponse mitigée, 40% préfèrent que les parrainages soient maintenus et 44% estiment que tout ça devrait pousser l'État à augmenter la dotation aux chaînes publiques. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Pour en parler en plateau avec nous, Charlotte Eusen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associée chez Tilder. Et aujourd'hui, on reçoit sur le plateau d'Hebdo.com Olivier Hubertali, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Point et auteur de Grandeur et décadence de la maison Lagardère au Seuil. Charlotte, légère majorité pour le maintien de ces parrainages, ça ne suit pas vraiment ce qui est proposé dans cette proposition de loi en ce
oui,
moment.
Oui, tout à fait. Il y a une forme de contradiction entre, en tout cas, ce que pensent les Français et les propositions qui sont annoncées dans ce rapport et dans cette proposition de loi. Ce qui est intéressant, c'est que la question qui est posée, c'est celle du modèle, finalement, d'audiovisuel public que veulent les Français. La tentation d'aller sur des applications payantes avec un choix de programme très riche et celle d'avoir accès à des programmes de qualité mais avec en effet moins de publicité ou moins de détournement de publicité à travers ces parrainages, on sent que les Français sont assez divisés.
Olivier Hubertali, comment on interprète ce résultat auprès des Français à l'occasion de ce remaniement?
On a l'impression que finalement les Français, ils ont conscience qu'il y a besoin de ressources, de financement pour faire des programmes déjà, donc c'est intéressant puisque et ils sont pas nécessairement pour une suppression totale et sans son remplacement. Ce qui est important de comprendre, je pense, par rapport au parrainage aujourd'hui, c'est que c'est une exception faite pour France Télévisions qui est devenue très importante pour elle pour financer des programmes. Si on prend l'exemple d'un programme comme les Victoires de la musique.
Ouais.
Ils ont un parrain qui est le Crédit Mutuel et qui permet à ce programme dit France Télévisions de le faire. Donc il faut savoir ce qui est très important, c'est s'interroger quelle qualité de programme on veut. Est-ce qu'on veut des programmes de spectacle vivants ou non? Et ça, c'est une question auquel le législateur devra répondre.
Justement, ces propositions arrivent dans un moment de tension entre les chaînes de télé privées et publiques. Depuis quelques semaines, TF1, M6 et les chaînes du groupe Altice et Canal accusent entre autres France Télé de réaliser grâce à ses parrainages un quart de son chiffre d'affaires publicitaire après 20h. En termes d'image, qu'est-ce qu'il y aurait de mieux pour le service public?
Le service public essaye de se défendre. En fait, lui, ce qu'il dit, c'est que finalement, les chaînes privées sont un peu aigries aujourd'hui parce que, par exemple, TF1 et M6 n'ont pas pu faire de fusion.
Oui.
Ils ont un marché de la publicité réduit. Ce qui est important, je pense, que pour que le service public se justifie aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter une différence en termes de programme par rapport à la concurrence privée.
Donc, ce qu'ils font, ce qu'ils réussissent.
Voilà,
à faire.
Ce qu'ils arrivent à faire sur certains événements. Mais évidemment, comme il dit, disent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour faire des programmes toute la journée. Certains programmes de divertissement, je prends à refaire conclu par exemple, qui est un programme qui est populaire, mais ça reste un programme de divertissement qui pourrait être très bien sur TF1 ou M6. C'est pas ce qui va différencier vraiment France Télévisions. Donc France Télévisions, s'ils veulent jouer la carte de la différence, c'est vraiment oui, mettre en avant peut-être plus d'émissions de débat. On parle d'émissions politiques aussi. Les émissions politiques à heure de grande écoute, elles n'existent plus vraiment. C'est là-dessus. Ils avaient beaucoup insisté sur l'éducation, rappelez-vous, pendant le confinement, avec l'UMNI et d'autres programmes pour la jeunesse. On a l'impression qu'on les voit plus beaucoup aujourd'hui.
Charlotte ? Oui, ce qui est intéressant, et en effet, il faut se remettre la grande idée, c'est vraiment de réaffirmer la singularité des chaînes de services publics. Et là, je trouve qu'on se concentre sur cette question des parrainages, qui est évidemment une question financière clé. Mais dans le rapport, il y a aussi des propositions sur des programmes, notamment plus étoffés sur l'Europe, sur l'international. Et cette singularité des chaînes du service public, elle doit vraiment passer par des contenus de grande qualité. Ça paraît quand même compliqué de proposer ces programmes avec une équation financière fragilisé par l'absence de parrainage.
Surtout en ayant supprimé auparavant la redevance, c'est-à-dire que ça rend le service public encore plus dépendant du bon vouloir du pouvoir malgré tout, ce qui est un tout petit peu problématique.
On doit s'arrêter là malheureusement. Merci Charlotte Zen d'avoir été avec nous. Vous êtes associée chez Tilder et merci Olivier Hubertelli. Vous êtes journaliste au Point et auteur de Grandeur et décadence de la maison Lagardère au Seuil. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy.
BFM Business, Hebdo.com, la chronique média.
Frédéric, aujourd'hui, vous nous parlez des femmes.
Eh oui, Rebecca, je me sens le cœur léger par ce beau temps. Mais surtout, en fait, j'ai découvert une étude réalisée par Kantar pour le programme Demain la presse, qui est organisé par la CPM, qui est l'organisme qui mesure la diffusion des médias. C'est une enquête qui porte sur la situation des femmes en France et la manière dont la presse en rend compte. La première info, et finalement, elle est assez rassurante, c'est que une grande majorité des Français considèrent que la situation des femmes est un sujet d'importance. C'est le cas pour 90% d'entre eux, voire très important pour 50%, pour situer dans la hiérarchie des sujets, ça se place naturellement derrière la santé, qui est la première préoccupation de nos concitoyens, mais devant des thèmes comme la justice sociale, le terrorisme ou même la question des retraites, qui nous a pourtant quelque peu occupés ces derniers temps.
Et alors, comment la presse traite-t-elle ce sujet ?
Pas si mal, à en croire l'étude. Mieux, en tout cas, que les autres médias. Je suis désolé pour la radio, dont on parlait tout à l'heure, mais on voit que ce genre de résultat, on a un peu l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai envie un peu de tempérer cette tendance. Pour positif qu'il soit, ces résultats cachent quand même des situations un tout petit peu plus difficiles. Tout ça pour dire, chers confrères de la presse et de la pub, qu'il y a encore un peu de travail.
Absolument, il y a encore un peu de travail. Merci Frédéric Roy pour cette chronique et merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais aussi en replay à la demande sur toutes nos plateformes. Très bon week-end sur BFM Business.
Hebdo.com sur BFM Business.